chronique philo. Si Œdipe formule une réponse valable, il n'est pas sauvé pour autant, ni la ville de Thèbes de la malédiction. Et lorsque Œdipe se crèvera les yeux, il signifiera à tous que la réponse se trouvait en lui-même, dans la continuation du chemin intérieur, non pas dans l'éclat pertinent de son intelligence, qui lui apparaît alors, au long des années, une bien piètre ressource. D'ailleurs, dans la pièce de Sophocle toujours, les dialogues qu'il a avec sa fille Antigone, qui l'accompagne au long des chemins, à la fin de son destin, ne sont pas des dialogues d'intelligence. Les mots qui passent d'elle à lui et de lui à elle concernent le parfum des fleurs, la forme des branches, des arbres, la couleur du ciel, la texture du chemin. Ils sont rendus à leur présence au monde. Et cela seul compte alors à cet endroit du chemin et du destin. Mais pour en revenir à la moitié du chemin, à cet instant où Œdipe, déjà grand, pénètre dans Thèbes, la menace qui pèse alors n'est pas tant non plus que la sphinx le dévore ou nous dévore, parce que la réponse n'aura pas été la bonne. À l'entrée de la ville, au commencement, symbole de soi-même livré à la question des débuts de la vie, tout est possible. La sphinx qui sagement repose sur ses pattes avant, monstre placé à l'entrée de la ville, les yeux plissés attentives, tandis que ses reins se soulèvent un peu en arrière, dans son corps de lionne avec son visage d'humain, cependant muni de crocs saillants, veut d'abord savoir si l'interrogé a quelque chose à lui dire, à lui raconter. Souvent, elle est déçue. Elle ne va pas alors dévorer pour la peine celle ou celui qui ne lui apprendra rien. Elle le laisse passer, tout comme notre esprit, souvent endormi, nous laisse passer à ces endroits où pourtant un sursaut eût été possible, une remarque déplacée, un élan de l'esprit inaccoutumé. Celle ou celui qui se croit alors sauvé, la sphinx l'abandonne en réalité à son ignorance. Il ou elle est perdu, mais ne le sait pas. Le chemin continue, faussement éclairé. En revanche, quelle joie, quel plaisir pour la sphinx de sentir monter le désir de dévorer celle ou celui qui, par ses souvenirs, ses histoires, son rapport unique et personnel au langage et à la vie, éveille en elle le désir de le connaître et de le posséder. La sphinx, ou la vie alors, ne prendrait donc en elle avec appétit et ne se laisserait féconder que par celle ou celui qui exprime avec ses mots, ses trouvailles, son aventure à être, et quels qu'en soient les moyens, la joie même de la quête. Les autres, elle les laisse aller à leur destinée inaccomplie. Ils hantent la ville. Celle ou celui qui n'accède plus ou renonce à la quête de sens, aux fruits du langage, à la construction de son être ou de son âme, tombe alors dans ce que Nietzsche a nommé le ressentiment. La vie ne le désire plus, il n'y a plus de chemin en soi pour atteindre quelque chose qui vaille la peine. Le monde tout-puissant nous a dévorés, au-dedans est ravi toute jubilation d'être et d'exister par nous-mêmes. Le danger est permanent. Nous en voulons alors à ce monde en entier, de cette inutilité qui pèse. L'impossibilité de se rejoindre, de se retrouver, nous rend amers. Le monde n'est pas absurde, mais vide. Un dégoût de soi et de l'autre monte et rend tout haïssable et sans issue. Alors vient la seule ressource possible, à l'inverse de toute joie, la vengeance, que l'on porte contre l'autre qui ne participe plus de notre construction, mais devient insensiblement l'ultime adversaire à vaincre, cible de notre amertume qui peut être dévastatrice.